Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 9h30 ici à Paris, 10h30 à Kigali.
Xavier Besson.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition d'Afrique Matin. À la une aujourd'hui, des pressions diplomatiques qui s'intensifient autour de Kigali. Pour la première fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande au Rwanda de cesser de soutenir le M23, ce groupe armé qui occupe une partie de l'est de la République démocratique du Congo. L'est congolais, où l'armée ougandaise, alliée elle de la RDC, vient de déployer des renforts dans la province de l'Ituri. Pourquoi faire ? Explication dans un instant. Dans ce journal également, le Sénégal et la Mauritanie qui exportent aujourd'hui leur première cargaison de gaz naturel et présentation des 5 candidats à la présidence de la BAD, la Banque africaine de développement. Le Rwanda dit prendre note. La RDC fait part, elle, de sa satisfaction. Réaction hier soir après que pour la première fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York a adopté une résolution qui condamne l'offensive du M23 dans l'Est congolais et qui demande à Kigali de retirer ses troupes présentes en RDC et de cesser son soutien au M23. Alors que ce groupe armé occupe désormais une partie non négligeable des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, et le ton est le même à Bruxelles, où la diplomatie de l'UE, l'Union européenne, qui peine pourtant à se mettre d'accord sur des sanctions, la diplomatie européenne a convoqué hier l'ambassadeur rwandais. Des pressions diplomatiques donc autour du Rwanda, alors que dans le même temps, les églises catholiques et protestantes de RDC continuent, elles, de penser que la solution à ce conflit passera par le dialogue. Après Kinshasa, Goma, Kigali et un crochet par l'Europe, des représentants de la CENCO et de l'ECC étaient hier à Lubumbashi, la deuxième ville de RDC. Reportage de Joseph Kaongo.
Pour participer aux assises du pacte social pour la paix, les membres de la société civile de la région du Katanga ont posé leurs conditions.
Il ne faut pas qu'on traite de l'intangibilité de nos frontières. Le pays est un et il reste indivisible. De deux, il faudrait que ceux de nos frères katangais qu'on a arrêtés pour des raisons politiques, qu'ils puissent être libérés avant cette réunion-là. Et de trois, il faudrait que ceux qui sont en exil aussi puissent revenir au pays. Et de quatre, il faut que ce dialogue soit inclusif, c'est-à-dire n'aborder pas seulement des questions politiques, mais aussi des questions de répartition des recettes.
La démarche de dialogue de la CENCO et de l'ECC, qui est critiquée ailleurs sur le fait de vouloir inclure même la rébellion AFC M23, est plutôt bien accueillie par les jeunes dans le sud-est de la RDC, regroupés dans la structure jeunesse pour l'unité katangaise.
L'histoire du pays nous renseigne que lorsque l'Église prend les commandes de ce genre d'initiative, nous trouvons toujours la possibilité d'avoir une sortie des crises.
Pour Mgr Donatien Chollet, secrétaire de la CENCO, cette démarche de dialogue est largement justifiée.
Il est question que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour aplanir leurs divergences afin de trouver un consensus national, pas autour du partage de pouvoir, mais plutôt des réflexions qui amèneraient à un socle solide de la refondation de l'État.
Après Lubumbashi, les consultations pourront se poursuivre en Angola et au Congo-Brazzaville notamment. Joseph Kaongo, Lubumbashi, RFI.
À Lubumbashi, où l'on est très loin des combats, puisque le Sud Kivu est à environ un millier de kilomètres. Hier, des affrontements y ont été signalés autour de Minembwe, pas directement avec le M23, mais avec un groupe armé local qui est allié au M23 et qui est en conflit avec l'armée congolaise depuis maintenant plusieurs années. Le chef d'état-major de l'armée de terre congolaise, lui, était hier encore plus au nord, à Bunia, capitale de la province de l'Ituri. Il est venu y rencontrer les officiers supérieurs de l'armée ougandaise, armée qui a renforcé cette semaine sa présence à Bunia dans le cadre d'un accord conclu il y a plus de 3 ans pour traquer les rebelles ADF. Florence Maurice.
Depuis lundi, au moins 750 soldats ougandais sont arrivés avec des véhicules blindés, des troupes installées dans le camp FRDC de Rwampara en périphérie de Bunia. Où seront-ils déployés et avec quelle mission ? C'est tout l'objet des réunions en cours. Réunion qui rassure le coordonnateur de la société civile pour la province de l'Ituri, Dieudonné Lossa. C'est la preuve, dit-il, que l'arrivée des soldats ougandais n'est pas une initiative unilatérale de leur part, mais bien concertée avec les Congolais, car ces renforts ont suscité de l'inquiétude. L'accord conclu en 2021 entre Kinshasa et Kampala prévoit des opérations conjointes contre les rebelles ADF, mais des sources militaires ougandaises ont évoqué la possibilité que ces renforts mènent aussi des opérations contre des groupes armés locaux, alors que le conflit entre milices Codeco et Zaïre a récemment gagné en intensité. Surtout, la semaine dernière, le chef d'état-major ougandais avait menacé, dans un message diffusé sur un réseau social, de lancer une offensive à Bunia contre des groupes armés locaux. De quoi faire craindre à certains une répétition du scénario de la Seconde Guerre du Congo, lorsque le Rwanda et l'Ouganda s'étaient affrontés en RDC par groupes armés interposés.
Florence Maurice, à propos de combat, Médecins sans frontières se dit en deuil mais aussi en colère. MSF annonce le décès de l'un de ses travailleurs humanitaires, un homme blessé jeudi lors de combats entre miliciens Wazalendo et M23 dans le territoire de Massissi. La RDC, où l'on apprend par ailleurs que Jean-Marc Kabound a bénéficié hier d'une grâce. Cet ancien chef de l'UDPS, le parti présidentiel, passé dans l'opposition, est condamné à 7 ans de prison pour notamment outrage au chef de l'État. Pas de grâce en revanche pour un autre opposant, Mike Mukebaye, un cadre du parti de Moïse Katumbi, en détention depuis 2023 et condamné hier à 2 ans et demi de prison pour propagation de faux bruits.
Dakar, 92 FM.
Dakar, au Sénégal, où le Premier ministre appelle à un sursaut face à un rapport, dit-il, particulièrement catastrophique et inquiétant. Ousmane Sonko, hier donc devant les députés, où il a notamment répondu à des questions sur le récent rapport de la Cour des comptes, rapport qui met en cause la gestion de l'ex-président Macky Sall, le chef du gouvernement sénégalais qui promet par ailleurs de nombreux nouveaux autres audits et des institutions et des agences du gouvernement. Le Sénégal, où ce mois de février est marqué par des premières en matière d'énergie, premier raffinage de pétrole brut sénégalais dans une raffinerie locale la semaine dernière et premier cargo aujourd'hui de gaz naturel liquéfié qui est destiné à l'export, un mois et demi après le début de l'exploitation d'un champ gazier commun avec la Mauritanie, le Sénégal et la Mauritanie donc qui deviennent des pays exportateurs de gaz. Léa Lisa Westerhoff.
Chargé de 178 000 mètres cubes de gaz, ce premier cargo quittera aujourd'hui les eaux mauritano-sénégalaises, direction les marchés européens. Cette première cargaison marque le début de la commercialisation du gaz liquéfié pour la Mauritanie et le Sénégal, et donc des premiers revenus, 2,3 millions de dollars pour chaque pays par bateau, selon une source proche du dossier. Pour les deux pays, c'est une étape importante. La production gazière initialement prévue en 2022 a été repoussée à plusieurs reprises. Elle est très attendue par le Sénégal et la Mauritanie, qui espèrent des retombées économiques importantes. Des retombées cependant revues à la baisse par l'explosion des investissements réalisés par les entreprises pétrolières. Le projet a coûté 7,5 milliards de dollars environ. Les revenus seront marginaux, mais déjà en garde un expert pétrolier au vu du coût de l'investissement initial. Dakar et Nouakchott avaient ordonné des audits qui ont conclu à une surévaluation de ses coûts, des audits qui n'ont pas d'impact sur l'avancée de l'exploitation gazière, estime cependant une source côté mauritanien. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et à propos d'énergie, notez que le pipeline qui conduit le pétrole brut du Niger vers le port de Semekpoje au Bénin, ce pipeline a une nouvelle fois été attaqué. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Des hommes armés ont saboté la conduite au niveau du village de Kamré dans le département de Doutchi, côté Niger. Donc, une attaque qui n'était ce matin toujours pas revendiquée. Enfin, ils seront 5 finalement, une femme et 4 hommes candidats à la succession d'Akinwumi Adesina, le Nigérian qui achève son mandat à la tête de la Banque africaine de développement, la BAD, qui finance de nombreux projets sur le continent africain. Et c'est au mois de mai que les candidats seront départagés. Présentation en attendant avec Claire Fage.
Seule femme de cette liste définitive, la sud-africaine Bajabulile Swazi Tshabalala est déjà vice-présidente de la BAD. Elle a innové pour financer davantage la banque de développement via du capital hybride, mélange de dettes et de fonds propres. Autre candidat de la continuité, le Sénégalais Amadou Watt est l'envoyé spécial du président de la BAD pour l'Alliance verte en Afrique. Malheureusement pour cet ancien ministre de l'économie, ce n'est pas au tour de l'Afrique de l'Ouest de fournir un président à la banque. Parmi les candidats de rupture et premier à se déclarer, le Tchadien Mahamat Abbas Toli est soutenu par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, malgré une fin de mandat du gouverneur de la BEAC ternie par des problèmes de gouvernance. L'économiste zambien Samuel Mounzele Maimbo, porté lui par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a fait sa carrière à la Banque mondiale. Il est malheureusement peu francophone pour une institution qui siège à Abidjan. Enfin, le mauritanien Sidi Ouattara, président de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, dont il a doublé le capital et qui siège provisoirement à Riyad, pourrait faciliter les financements du Golfe. De bonne source, il a le soutien de la Côte d'Ivoire.
À Abidjan, il est maintenant 8h40. Passez une excellente matinée à l'écoute de la Radio Mondiale.